prions au nom de Jésus. Amen. Voilà, on va parler de service donc ce matin. On est tous appelés, vous savez, en tout cas si on est en Christ, à être des serviteurs. Ce n'est pas forcément un thème très à la mode, on préfère prêcher sur les chrétiens comme leaders, ou ceux qui doivent être la tête mais non pas la queue. Et pourtant, la Bible, c'est quelque chose qui revient souvent, la thématique du service, d'être serviteur. D'ailleurs, même ce vocabulaire, parfois, est un peu détourné ou utilisé bizarrement dans nos églises. Je ne sais pas, vous avez remarqué, on parle parfois des pasteurs ou des responsables comme des serviteurs de Dieu, des fois même des grands serviteurs de Dieu. Voilà, c'est un peu paradoxal, hein, un grand serviteur. Vous savez d'ailleurs que le mot ministère ou ministre, hein, ça vient du latin, et ministère en latin, ça veut dire le serviteur. Hein. Alors aujourd'hui, on a fait un peu des fonctions, mais il faut rappeler que c'est le ministère. Le petit, le ministère. C'est ça que ça voulait dire, c'est le serviteur. Et pas le mégastère ou le gigastère. Hein. Alors j'en profite pour faire un petit mot plus personnel. Donc si vous voulez me faire plaisir, n'hésitez pas de m'appeler Timothée, plutôt que pasteur, et même de me tutoyer, il n'y a pas de souci, on est en famille, on est des frères et sœurs, et je suis là pour être votre serviteur, et pas votre maître. En tout cas, que le Seigneur m'aide aussi à être dans cette attitude. Mais bon, je vais prêcher pour moi ce matin en premier, mais aussi pour nous tous, parce que nous sommes tous appelés à être serviteurs les uns des autres. Et même, comme je le disais tout à l'heure, j'irai plus loin, la dimension du service est au cœur de notre vocation, de notre identité chrétienne. Vous savez, si nous sommes là rassemblés ce matin, ce n'est pas parce que nous sommes un club du dimanche matin qui aime bien se rassembler ensemble ou bien qui aime bien chanter des chants. Alors, oui, c'est déjà une belle chose, mais ce n'est pas juste pour ça. C'est parce que si nous avons loué notre Dieu, si nous avons chanté ensemble, ben justement, c'est pour louer notre Dieu. C'est parce que nous avons été sauvés, appelés par Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme. Jésus-Christ, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On l'a proclamé, il n'y a pas de nom plus grand que son nom. Et pourtant, comment est-ce que Dieu fait homme se présente à nous lorsqu'il vient sur cette terre, comme on le lit dans les évangiles, comme le serviteur par excellence. Vous savez, il va même jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Laver les pieds, c'est quand même... Et puis les pieds, à l'époque, n'étaient pas très propres. Hein. Lui, le Seigneur des seigneurs, il s'est fait serviteur. Alors si lui se l'est fait, nous aussi, nous sommes appelés à nous mettre au service des autres. Le service, c'est quelque chose qui est lié même à notre salut. Parce que Dieu, oui, nous a sauvés, nous a tout donné. Mais ce n'est pas juste pour dire, voilà, je suis sauvé et je continue à vivre ma vie comme si de rien n'était. On ne peut plus vivre une vie de la même manière. On n'est plus désormais au service de l'envie, l'égoïsme ou la jalousie, la tromperie, ce qui est parfois en nous. Mais on est appelé à vivre une vie comme un service pour Dieu et pour les autres. Quand je parle de service, hein, c'est pas juste servir de temps en temps. Là, si on veut parler vraiment de service selon la parole de Dieu, c'est pas, il s'agit pas de dire voilà, il faudrait que, ouais, c'est vrai, ouais, il faudrait que je consacre peut-être 2 heures de ma semaine pour servir un peu les autres. Le service, c'est quelque chose qui devrait définir toute notre vie, tous nos actes, parce que le plan de Dieu pour nous dans sa parole, ça passe par cette prise de conscience. Nous avons été créés pour servir. Nous avons été sauvés pour servir. Nous sommes appelés à vivre toute chose dans l'esprit de service, dans notre vie de famille, comme un service. Notre travail, comme un service. Nos relations, nos amitiés, tout ce que l'on fait comme un service, dans cet esprit de serviteur. Toute notre vie est appelée à vivre dans cela. Alors ce matin, on va se focaliser sur un texte qui évoque plus particulièrement le service dans l'Église. Mais je crois que ce qu'on va voir, ce n'est pas seulement valable pour l'Église, hein, c'est valable pour toute notre vie, tous les jours, quand on est au travail, quand on est en famille, quand on est
dans nos loisirs, dans tout ce que l'on fait. On va parler cependant ce matin quand même du service, plus particulièrement dans l'Église, parce que c'est aussi une période un peu de rentrée, aussi pour notre Église. On aura un culte un peu plus spécial la semaine prochaine, avec un mot d'ordre peut-être plus général pour la rentrée la semaine prochaine. On en parlera au moment des annonces, mais on aura aussi des personnes à accueillir, à servir, et j'inviterai donc à méditer là-dessus ce matin. On va se tourner vers la première lettre de Pierre, et on va lire au chapitre 4, les versets 7 à 11. 1 Pierre 4, 7 à 11. La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour pardonne un grand nombre de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans vous plaindre. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres, comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu, que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. Et le service amène à la louange. Un texte qui commence, je ne sais pas si vous avez vu, par cette phrase « La fin est proche ». L'apôtre Pierre a écrit ces mots-là il y a quasiment 2000 ans maintenant. Hein. Et pourquoi est-ce qu'il peut dire « la fin est proche » Parce que depuis que Jésus-Christ est venu sur cette terre, il y a plus de 2000 ans, nous sommes entrés dans les derniers temps. Nous sommes entrés dans une nouvelle étape de l'histoire. Et dans cette étape, nous célébrons la première venue de Jésus-Christ et ce que ça change pour nous. Et nous attendons aussi le retour glorieux de notre Seigneur. Nous attendons la fin, comme dit-il, de ce monde rongé par le mal et le péché, mais aussi la finalité de ce monde qui va être transformé en une création magnifique où il n'y aura plus ni deuil, ni souffrance, ni douleur, ni mal de dos, ni conflit, etc. Et l'apôtre Pierre dit, c'est proche, ce temps est proche. Alors si c'était proche il y a 2000 ans, hein, c'est encore plus aujourd'hui. Et donc ce texte, quelque part, est plus largement une exhortation à que faire en attendant la fin. Et je crois que dans ce texte, l'apôtre Pierre nous met en garde contre deux excès possibles. Le premier, c'est l'activisme. Vous savez, il y a certaines personnes, je ne sais pas si c'est votre cas, lorsqu'elles se préparent à partir en voyage, elle court un peu dans tous les sens. On vérifie 4 fois que sa valise est bien faite, je vérifie 1énième fois que j'ai rien oublié, j'apprends le plan par cœur là parce que au cas où mon GPS aurait plus de batterie ou il défaillait. Ah, je ne sais pas si c'est votre cas. Il y en a qui sont ils courent dans tous les sens. Et parfois on prépare un peu le retour de Jésus comme ça, on se dit voilà, il faut vite se dépêcher, il faut courir, il faut aller, on s'agite un peu. On s'inquiète. Et le premier verset qu'on a lu nous dit « La fin de toute chose est proche, menez une vie équilibrée, sobre, avec modération. » D'autres traductions ont été traduites « Soyez sages, soyez sobres, soyez pondérés. » Nous sommes invités à ne pas nous affoler, mais à vivre de manière sage et pondérée, sans excès, paisiblement. Et le texte nous donne une raison pour pouvoir aussi trouver du temps pour la prière. On en reviendra sur la prière après. Il nous rappelle aussi que le service de la vie chrétienne, le service pour Dieu, le service de toute notre vie, hein, ça ne doit pas nous mener à l'épuisement. Nous ne sommes pas appelés à faire du vent en courant dans tous les sens, hein, mais à vivre et servir de manière réfléchie, de manière posée, avec la sagesse que Dieu nous donne, en laissant du temps aussi pour la prière, le repos. Inversement, L'autre extrême, ça serait, on pourrait dire, la paresse ou l'oisiveté. Hein. On se prépare au retour de Jésus en se tournant les pouces. Moi, je me souviens, lorsque j'étais enfant, on allait souvent en vacances chez mes grands-parents en Alsace, qui étaient des gens engagés dans la foi. Et le dimanche matin, ils se levaient assez tôt. C'était des agriculteurs aussi. Voilà, ils se levaient tôt et ils se préparaient à aller au culte. Le dimanche, on ne travaillait pas. C'était la journée, on allait à l'église et puis après, en famille. Et tôt le dimanche, voilà, tout le monde se levait, tout le monde courait à droite, à gauche pour se préparer. Ma grand-mère, il fallait que le repas soit prêt avant de partir au culte. Et voilà, ils étaient tous à s'activer. Et vers 9h à peu près, mes grands-parents, ils étaient habillés, rasés pour les hommes, en tout cas lavés, endimanchés et prêts à partir pour le culte. Sauf que le culte, c'était à 10h et que c'était à 5 minutes de chez eux pour se rendre à l'église. Bref, mes grands-parents, ils étaient souvent en avance, c'était un peu comme ça, et très à l'avance. Et puis, ils attendaient sur leur fauteuil, voilà, que ce soit l'heure de partir. Alors, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose hein, de prendre un temps calme avant de se rendre au culte le dimanche matin. Parfois, c'est l'inverse, hein, surtout quand on a des jeunes enfants ou autres, voilà, c'est parfois un peu la folie pour aller au culte. Mais de se poser, oui, c'est une bonne chose. Mais je crois que c'est une illustration aussi, des fois, de peut-être l'attitude qu'on peut avoir en tant que chrétien face au retour de Jésus. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. On attend. On se dit, voilà, ça commence à faire long, là. Hein. On attend que la fin vienne. Le texte qui est là nous dit, voilà, oui, soyez sages, pondérés. Il ne faut pas courir dans tous les sens. Ce n'est pas ça le but. Mais prenez le temps de prier. Accueillez-vous les uns les autres, l'hospitalité, hein. Aimez-vous les uns les autres, ayez des relations fraternelles et mettez-vous au service. C'est ça les exhortations qui sont là. Donc il y a des choses à faire, une vie à mener. La meilleure façon d'attendre le retour de Jésus, c'est justement de ne pas attendre qu'il revienne pour se mettre au service, mais de commencer dès maintenant. C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24 et 25, il y a plusieurs histoires que Jésus raconte pour parler de l'attente de son retour. Et ces histoires, ces paraboles, nous parlent de service, d'être actif dans le service. Vous avez ce texte où Jésus dit au chapitre 24, verset 46, « Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. » Si nous sommes surpris par le retour du Seigneur en train de le servir, on est heureux, nous dit Jésus. Donc on n'est pas invité à préparer la fin des temps en faisant plein de calculs pour savoir à quelle heure il revient, mais en servant le Seigneur. Un service accompli avec sagesse, avec pondération. Nous avons été sauvés pour servir. Alors, dans le service, parfois on a besoin d'outils. Ici j'ai ramené un balai, des gants. Bon, là, c'est du service de ménage plutôt. Hein. Il n'y a pas que ça comme service. Et je crois que voilà, il y a deux choses qui sont mentionnées par le texte qu'on a lu, qui me semblent aussi pouvoir être des outils dans notre service chrétien. La première chose qui je relèverai, c'est la prière. Le texte mentionne la prière. Parce que nous ne pouvons pas servir Dieu sans avoir cette relation personnelle avec lui. Nous ne pouvons pas servir un maître que nous ne connaissons pas. Et si vous voulez connaître le Seigneur, vous avez besoin de prendre du temps avec lui. La prière nous permet de reconnaître que nous avons aussi besoin du Seigneur pour le service. Parce que sans l'aide de notre Seigneur, comme on le verra plus tard, on sera bien capable de le servir. Nous avons besoin de prendre ce temps, prendre du temps dans la prière, dans la présence du Seigneur, le louer, lire sa parole, être avec lui tout simplement, un temps à part, pour pouvoir être orienté par lui dans le service, pour lui aussi confier notre service, pour lui dire, oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Quelqu'un a dit que la prière, c'est la respiration du chrétien. Si vous pouvez penser pouvoir servir Dieu sans prendre le temps de vous arrêter pour prier, vous allez vite vous essouffler. On a besoin de respirer. Et si des fois on est devenu tellement occupé qu'on ne trouve plus le temps de prier, même si c'est pour le service, on dit « Ah, je suis tellement occupé par le service, j'arrive plus à trouver le temps de prier », ce n'est pas bon signe. Hein. On est en train de tomber dans l'activisme. Et on passe à côté aussi quelque chose d'important. Autre élément indispensable pour le service qui est présenté au verset suivant, c'est l'amour. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. Ça rejoint un peu ce que l'apôtre Paul écrit en 1 Corinthiens 13, « Si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés, dit-il, même livrer mon corps aux flammes. » La personne dévouée, qui apparaît dévouée, mais Paul rajoute en disant « Si je n'ai pas d'amour, ça ne me sert à rien. » L'amour, c'est le fondement éthique un peu de notre service. Un service sans amour, ce n'est pas le service que Dieu veut. Et notre texte ajoute aussi que l'amour couvre une multitude de péchés. C'est la question du pardon. Il y a un lien entre l'amour et le pardon. Hein. Et c'est vrai que l'amour, c'est le meilleur remède à tout ce qui pourrait entraver nos relations. Hein. Les conflits, la colère, les paroles irréfléchies, la médisance, le péché. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'amour pour les autres? Là, on ne parle pas seulement d'amour de Dieu, hein, d'amour les uns pour les autres, fraternel, de pardon. Parce que le service, ça ne se fait pas tout seul en solitaire. Le service pour Dieu, ce n'est pas comme Lucky Luke, vous savez, le cow-boy solitaire. Hein. C'est quelque chose qui se fait ensemble, au sein d'un corps, le corps du Christ. On est appelé à collaborer, à travailler ensemble pour la gloire de Dieu. Et c'est bien ça le problème, parce que je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, je ne suis pas parfait. Ça m'arrive de commettre des erreurs. Je n'agis pas toujours convenablement. N'est-ce pas, ma chérie hein. Même si j'ai du mal à le reconnaître, je suis un être pécheur. Le problème, pour vous, c'est que vous êtes appelé à travailler avec moi. Et lorsque des êtres pécheurs travaillent ensemble, eh bien, ça arrive qu'il y a des désaccords. Des mots qui n'auraient pas dû être dits, des blessures, des manquements. Et le Seigneur nous rappelle dans ce texte qu'il nous laisse une arme extraordinaire face à cela, c'est le pardon. L'amour couvre une multitude de péchés. C'est un thème aussi fondamental, central pour la foi chrétienne. Nous sommes appelés à pardonner comme nous avons été pardonnés en Jésus-Christ. C'est lié au cœur de notre foi. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils pour nous soyons pardonnés de nos péchés. Et l'amour est lié au pardon. Et c'est par cet acte suprême d'amour, cette mort de Jésus-Christ sur la croix, pour nous, pour le pardon de nos péchés, que nous sommes sauvés. Il y a un lien entre l'amour, le pardon. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile hein, d'aimer, de pardonner. Nous, souvent, dans notre société, quand on parle d'amour, on a un peu l'idée de quelque chose qui nous tombe dessus. C'est on tombe amoureux et on ressent des choses. Et puis, quand c'est plus là, bon, c'est qu'il n'y a plus d'amour, il vaut mieux se séparer. C'est quelque chose qu'on subit presque, l'amour. Mais le modèle que nous laisse la parole de Dieu, c'est celui de Jésus-Christ. Nous a tant aimés, de Dieu qui nous a tant aimés. Et vous croyez que c'était facile pour Jésus de nous aimer? Vous croyez qu'il nous a regardés en train de nous entre-déchirer, voilà, vu l'humanité en train de s'entretuer, il s'est dit « Oh, qu'ils sont beaux, je les aime !» Non. Dans les évangiles, on voit que Jésus, au moment juste avant son arrestation au jardin de Gethsémané, il est en lutte avec son Père. C'est dur pour lui. Il y a de la sueur, il y a du sang qui coule de son front, nous dit le texte, tellement il lutte, il dit « Seigneur, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Aimer jusqu'au bout, son frère, sa sœur, ceux qui nous entourent, ce n'est pas toujours simple. Ce n'est pas toujours facile. Ça demande parfois des efforts, ça demande parfois le secours de Dieu, de notre Père céleste. Mais rappelons-nous de la façon dont Dieu nous a aimés en Jésus-Christ. Et demandons au Seigneur de venir à notre secours. Demandons au Saint-Esprit de renouveler l'amour. Parce que vous savez, le premier fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. Et on a aussi cette force qui nous vient de Dieu pour aimer. Voilà deux outils importants dans le service, la prière et l'amour lié au pardon. Et puis arrive donc la question maintenant du verset 10 qui évoque directement cette fois le service. Dans ce verset, le service est évoqué, je ne sais pas si vous avez remarqué, en rapport à la grâce de Dieu. Le texte dit « Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier ». On a traduit par don ici, mais littéralement c'est une chose de la grâce ou un cadeau de la grâce, on pourrait traduire. Et puis le texte continue, qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce, infiniment variée de Dieu. Ce qui nous est dit ici, ce qui nous est rappelé, c'est que le service, c'est une histoire de cadeau, une histoire de grâce. Alors nous avons tous reçu un immense cadeau, une immense grâce de la part de Dieu, c'est le salut par Jésus-Christ, par grâce. On n'est pas sauvé par nos mérites, mais parce que Jésus-Christ est mort à notre place. C'est un cadeau qu'on reçoit par la foi. Un autre cadeau qu'on partage tous, c'est si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, nous pouvons recevoir son Saint-Esprit. Et c'est le même Saint-Esprit qui vit en nous tous et qui nous équipe. Ça, c'est des cadeaux communs, on pourrait dire. Hein, nous avons tous reçu ou que nous pouvons tous recevoir en Jésus-Christ. Et ce que rappelle Pierre dans ce passage, c'est que nous avons aussi chacun reçu au moins un autre cadeau qui est peut-être plus particulier de la part de Dieu et qui peut varier selon les uns et les autres. Peut-être que certains sont doués pour le chant, d'autres pour partager la parole de Dieu, d'autres pour organiser, d'autres pour accueillir les nouveaux, d'autres pour annoncer l'évangile, d'autres pour faire en sorte que tout soit en ordre et bien rangé. Ça, c'est des cadeaux et grâces qui nous est dit ici, les dons, qui peuvent être différents les uns des autres. Ça peut se recouper parfois, hein, mais on n'est pas tous identiques. Autant on est différents les uns des autres, autant le Seigneur nous fait des dons aussi différents dans ce domaine. Et ces cadeaux-là, ces dons-là, nous dit le texte, ces grâces-là, nous sommes appelés à les mettre au service des autres. Elles ne sont pas juste pour moi, elles sont pour les autres, pour le service des autres. Et c'est ainsi, dit-il, que nous serons des bons gestionnaires, des bons intendants des grâces que Dieu nous fait, du cadeau que Dieu nous fait. C'est intéressant parce que ça rappelle que le service chrétien, vous savez, ce n'est pas une histoire de bonnes œuvres, mais de grâce. Plus exactement, peut-être de rendre grâce. Nous avons reçu des grâces, nous rendons grâce à Dieu par le service. Une très belle parabole que Jésus raconte à ce sujet dans les évangiles, la parabole qu'on appelle des talents. Mais vous savez, un talent à l'époque biblique, ce n'était pas un talent comme on le dit aujourd'hui, c'était la plus grosse monnaie d'échange, on pourrait dire, c'était comme un très gros lingot d'or. Une énorme somme. On pense que un talent, ça équivalait à peu près à 20 ans de salaire d'un ouvrier. Donc un gros lingot d'or. Hein. Si vous devez calculer sur la base du SMIC actuellement, ça serait à peu près 336 000 euros, j'ai calculé. Et donc dans cette histoire, Jésus se compare à un maître qui va partir en voyage et qui, avant de partir, va appeler trois de ses serviteurs. Et à l'un, il va confier 5 talents, à l'autre 3 et à l'autre 1. Et il leur dit, voilà, prenez-en bien soin, je m'en vais, je vous confie ça. Je ne sais pas si vous réalisez quand même, hein. C'est l'histoire d'un maître qui confie à de simples serviteurs, littéralement c'est même des esclaves, l'équivalent de 1 680 000 euros pour le premier, si on prend notre équivalent aujourd'hui, un peu plus d'un million d'euros pour le deuxième, et puis 336 000 euros pour le troisième. Il faut se mettre à la place, vous êtes un simple ouvrier, un esclave en bas de l'échelle sociale. Et votre patron, tout d'un coup, débarque un jour avec une mallette pleine de billets, vous imaginez? Et vous dit, voilà, bah, je vais partir en voyage, bah, tiens, je te donne ça, et puis tu en prends bien soin. Hein? Wow. Vous dites, quelle preuve de confiance, quand même. En plus, il n'a pas dit où il partait quand il revenait. Il faut vraiment que vous soyez très apprécié, quand même, de votre patron, pour qu'il vous mette entre vos mains une telle somme d'argent. Et c'est ce que le Seigneur fait envers nous, comme le montre cette parabole. Il nous laisse la gestion de ce qui lui appartient. Il nous donne des dons, des capacités particulières, des talents, et tout ça, ça a une valeur incroyable. C'est un vrai trésor qu'il place entre nos mains. Et la question de cette parabole, c'est qu'est-ce que les serviteurs vont en faire? Et dans la suite de la parabole, vous avez deux des serviteurs, les deux premiers, qui se mettent au travail et qui font fructifier ces talents, cette somme qui était confiée par le maître. Et quand il revient, voilà, ça s'est multiplié. Et puis, il y a le troisième serviteur qui, lui, cache son talent dans la terre, comme un trésor, dans une caisse bien. Et il attend, retour de son maître. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Le texte nous le dit le serviteur quand son maître revient, parce qu'il a peur de son maître. Il le voit comme quelqu'un de dur, comme quelqu'un de sévère, comme quelqu'un qui punit injustement ses serviteurs. Vous voyez, il n'a pas compris la valeur de la grâce que Christ lui a faite. Sinon, il ne le verrait pas comme ça. Il n'a pas réalisé et saisi l'amour de Dieu que Dieu lui manifeste en Jésus-Christ. Il n'a pas réalisé la confiance que lui a été faite lorsque le maître lui confie quand même cette somme incroyable. Ce n'est pas un maître méchant, là. C'est un maître bon qui nous aime, un Seigneur. L'attitude des deux autres, de la parabole, est tout autre. Et le texte n'explique pas leur motivation, le texte ne dit pas pourquoi est-ce qu'ils sont partis faire fructifier tout ça, mais on peut penser que par contraste avec le troisième, ces deux-là, ils représentent ceux qui ont compris, qui ont saisi la valeur de la grâce. Ils sont remplis de joie. Quand vous avez compris la grâce de Dieu, vous êtes remplis de joie. On l'a chanté, je chante, je danse car tu es bon. Et je ne peux pas garder cette joie pour moi. Alors je m'empresse d'aller le mettre au service des autres, au service de celui qui m'a fait ce cadeau si merveilleux. Et les actions de ces deux premiers serviteurs n'étaient pas motivées par la crainte justement d'un jugement, mais par l'amour qu'ils ont envers ce maître qui leur a fait un tel cadeau. Celui qui a pris conscience de la valeur de la grâce de Dieu est reconnaissant envers ce que Dieu lui a donné. Ce Dieu qui lui a tout donné. Lui qui ne nous doit rien, nous a tout donné, jusqu'à sa propre vie en Jésus-Christ. Se mettre au service d'un tel maître, si on a compris vraiment ce qu'il est et sa grâce, alors ça devient beaucoup moins difficile, n'est-ce pas? C'est une joie de servir quelqu'un qui nous aime autant. Voilà le fondement du service chrétien. Servir Dieu et les autres, comme le dit le texte, c'est servir comme un bon gestionnaire de la grâce, si diverse de Dieu. Et on ne sert pas pour obtenir les bonnes grâces de Dieu, mais parce que Dieu nous a fait grâce. Alors si nous avons saisi la valeur des grâces qui nous sont faites, il nous reste qu'à les mettre au service des autres, c'est ce que dit le texte. Allez, mettez au service des autres. Alors là, le texte ne parle pas de cette question que peut-être certains se posent. Oui, bon, encore faudrait-il savoir quel est mon don? C'est vrai que c'est utile de comprendre un peu qui je suis, quel est le don, quels sont les dons que Dieu m'a fait. Ceux qui étaient là à l'étude biblique il y a 10 jours, on a vu quelques pistes à ce sujet. Mais dans ce texte, l'apôtre Pierre n'en parle pas, ce n'est pas le sujet principal. Et il ne dit pas, voilà, cherchez quel est votre don, puis mettez-vous au service. Il dit, chacun de vous a reçu un don particulier, alors mettez-le au service des autres. Et je crois que parfois, on se focalise sur dire, ouais, mais moi, je ne sais pas trop c'est quoi mon don. Et on oublie qu'on est appelé simplement à se mettre au service. Moi, je connais aucun chrétien qui ait découvert ses dons en restant chez soi à se tourner les pouces ou à les utiliser pour scroller sur Instagram. Les dons se révèlent dans le service. C'est lorsque nous décidons de nous mettre au service des autres, puis dans l'église de nos frères et sœurs, pour la gloire de Dieu, que nos capacités particulières vont se dévoiler. Donc, si vous souhaitez découvrir vos dons, ben, j'ai qu'un conseil à vous donner. Impliquez-vous dans le service de l'Église. Il y a des besoins, on en parlera peut-être les prochains dimanches ou au fur et à mesure, même peut-être tout à l'heure. Vous savez, si on pense que notre divin patron ne se trompe pas trop dans le recrutement, c'est probablement qu'il ne veut pas nous faire prendre la place de quelqu'un qui accomplit déjà bien son service. Il y a bien plus de chances qu'il ait prévu de nous utiliser dans des domaines où il y a des besoins. Voilà un peu quelques éléments. Nous sommes appelés à servir. Pour terminer, j'aimerais prendre cette image de l'entreprise. Je ne sais pas si c'est une bonne image pour représenter l'Église ou la foi chrétienne, mais bon, on va aller jusqu'au bout. Et on pourrait dire que sans Christ, nous étions un peu comme des chômeurs de longue durée, affectés par la précarité liée à notre situation, couverts de dettes envers le divin banquier. Mais notre Dieu a envoyé Jésus-Christ régler nos dettes et nous donner une situation exceptionnelle. Parce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le divin patron n'a pas seulement fait de nous des serviteurs, il a fait de nous ses enfants. Il nous a adoptés. Celui que nous servons, on l'appelle notre Père. Un Père qui nous aime, un Père bon, bienveillant. Et notre place, c'est désormais dans l'entreprise familiale de Dieu lui-même. Et on a reçu un salaire en or, hein, qui est la vie éternelle dans la présence de Dieu. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a pas de meilleur salaire. Hein. C'est un cadeau merveilleux que Dieu nous a fait alors même que nous ne le méritions pas. Absolument pas. Hein. Je crois que si nous réalisons le privilège que nous avons d'avoir été intégrés à cette plus merveilleuse et incroyable multinationale qui existe. Hein. C'est l'Église, c'est, je le dis parfois, c'est le plan de Dieu, le plan collectif de Dieu dans son aboutissement, c'est la... Il n'y a pas mieux. L'Église universelle, hein, le peuple de Dieu, dans son ensemble, on a été intégré à son peuple. C'est la plus incroyable multinationale qui soit, de toutes les nations. Alors on peut s'engager, si on a compris ce que ça représente, dans notre service avec joie, avec reconnaissance. Alors peut-être que certains diront que la tâche est parfois difficile ou qu'elle est trop grande, hein, c'est trop grand pour moi. Et c'est vrai que parfois, ce n'est pas toujours facile. Il y a des temps difficiles dans la vie avec Christ, des temps de souffrance. Ça peut arriver. Mais souvenons-nous de ce que le texte dit aussi à ce sujet. Il nous dit que c'est Dieu lui-même qui nous fournit les grâces, les outils, les capacités nécessaire pour accomplir notre tâche. C'est lui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin pour servir. Et non seulement il fournit les outils, mais le verset 11 nous explique qu'il nous donne aussi la force pour accomplir notre service. Servez avec la force que Dieu donne, dit le texte. Non pas avec ma propre force, mais la force que Dieu me donne. Tout dans notre service n'est que cadeau de Dieu. Il est celui qui nous donne les capacités pour le service. Il est celui qui renouvelle nos forces pour nos services. Et notre seule responsabilité, comme le dit la fin de notre passage, c'est de mettre tout cela en œuvre pour la gloire de Dieu. Amen. Ça, c'est l'objectif de notre service. Glorifier Dieu. Lui rendre gloire en servant les autres. rendre gloire à Dieu et à Jésus-Christ. On a tout reçu gratuitement. On est appelé à servir maintenant dans l'objectif de la gloire de Dieu. Alors, on peut peut-être prendre un temps ce matin pour se mettre devant Dieu et se poser cette question. Et Seigneur, est-ce que ma vie, mon service, puisque le service c'est toute ma vie en Christ, hein, se résume à agir pour la gloire de Dieu? Peut-être que le Seigneur veut nous rappeler, nous interpeller sur certains points de sa parole ce matin par rapport au service. Faire redécouvrir la grâce qui fonde le service. Peut-être qu'il nous interpelle sur la question de l'amour, de la prière. Laissons le Seigneur nous interpeller par sa parole ce matin. Seigneur, nous sommes là devant toi ce matin. Et nous reconnaissons que si nous pouvons être là, c'est grâce à toi. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce que nous avons été sauvés, appelés en Jésus-Christ. C'est par ta grâce que tu nous appelles à ton service. C'est par ta grâce, Seigneur, que tu nous équipes pour ton service. C'est par ta grâce, Seigneur, que tu nous offres ton Saint-Esprit, ta présence même, pour nous accompagner dans le service. Et Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous ne servons pas, Seigneur, pour ta gloire. Pardon pour toutes les fois où notre état d'esprit dans notre vie quotidienne n'est pas marqué par la grâce, l'amour, le pardon qui sont en toi. Seigneur, viens renouveler nos cœurs pour faire de nous tes serviteurs, Seigneur, tel que ton cœur le désire. Seigneur, nous te prions maintenant aussi pour notre Église, tous ensemble, et nous te demandons, Seigneur, que tu suscites aussi dans le cœur de chacun, des uns et des autres, de pouvoir servir là où, Seigneur, tu nous places, selon les dons que tu as mis en nous, selon aussi les besoins qui sont là, Seigneur. Que tu suscites aussi les uns et les autres, que tu nous permettes en tant qu'Église, Seigneur, d'être à notre échelle, en tant qu'Église locale, une manifestation de ce service que tu veux pour nous, Seigneur, dans toute notre vie. Et nous faisons, Seigneur, et te demandons cela, non pas pour simplement être tranquille ou pour que l'Église tourne bien, mais pour que ce soit quelque chose à ta gloire, Seigneur. Pour que ta gloire se manifeste à travers cela. Nous prions au nom de Jésus. Amen.